coup sûr.
Il n'est pas parfait.
Dans le mid.
C'est l'homme de la situation, à ce qu'on m'a dit.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio. X.
Ben ouais. C'est ça, un début d'année 2026. Ben c'est le fun parce que là, tout le monde rentre dans le studio et on se fait souhaiter bonne année.
Bonne année, Pierre. La santé.
Gary.
Bonheur.
Gary dit qu'hier, à Mont-Saint-Anne, il y a eu 10 fractures. Les gens vont en ski et se cassent la gueule.
Ah oui, puis avec le froid de fou qu'on a présentement, quand tu tombes sur la glace, t'as aucune chance pour ton tibia. Là.
En fin de semaine, je parlais avec des gens et ils me disaient pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Ben j'ai expliqué que une des raisons, c'est que les gars vont prendre des risques.
Ah, on est un peu plus cocky des fois. Hein.
Voilà.
Mais en même temps, ça vaut la peine de la vivre, hein, des fois. Faut faire des affaires un peu plus rock'n'roll.
Notre invité, chroniqueur, vous l'entendez tout le temps ici dans le show de Couture dans le Mid, et médecin Karim El Ayoubi, comment allez-vous?
Oui, bonjour à vous deux, ça va?
Ça va bien. Bonne année 2026, parce qu'on va avoir une grosse année au Québec, mais partout, je pense. C'est bien parti avec le Venezuela et les Américains, mais pour le Québec, on a quand même des élections 2026, et vous êtes quand même porte-parole du Parti conservateur en matière de santé, donc on va avoir des élections, et M. El Ayoubi va se présenter, j'imagine?
Ben, j'ai pas pris ma décision encore, puis et même si je l'avais pris, je vais laisser au chef annoncer qu'ils vont être ses candidats. Il va en avoir, mais tu sais, c'est pas un scoop. Je pense que Eric a parlé à Dominique Morin ce matin en disant qu'il va y avoir quand même plusieurs candidats, le 20-25, qui vont être présentés le 31 janvier prochain.
Ouais.
Puis après ça, il va en avoir graduellement pour que d'ici idéalement le printemps, là, la presque totalité des candidatures soient présentées. Moi, en toute honnêteté, j'y réfléchis, mais c'est quand même lourd des campagnes électorales. Ça prend beaucoup de temps. C'est des changements de vie qui sont assez importants. Donc, je suis toujours en réflexion, disons.
Ouais. Là, on regarde, parce qu'on va jaser de santé, vous êtes médecin et c'est tout à votre honneur de venir ici au micro quasiment à chaque semaine de parler du système de soins de santé au Québec. Ce qui va bien, ce qui va mal, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et là, je regarde taux d'occupation ce matin, 124%. C'est du stock pareil. Qu'est-ce qui se passe dans nos urgences actuellement?
Ouais, ça c'est toujours à ce temps-ci. On regarde là, les manchettes de journaux depuis des décennies, c'est à peu près toujours comme ça, mais c'est un peu de pire en pire les occupations de chaque année à chaque année en raison du vieillissement de la population. Hein. Lorsqu'on a une population qui vieillit, ben et on arrive à la période des virus respiratoires. En ce moment, le titre entre 2000 et 2022, c'était beaucoup la COVID qui occupait beaucoup les salles d'urgence et les lits d'hospitalisation. Maintenant, cette année, c'est l'influenza, beaucoup plus là, que la COVID. On a moi, je viens juste de terminer une semaine d'hospitalisation et je dirais presque 2 patients sur 3 que j'admettais que c'était de l'influenza. Souvent, des personnes âgées, si moi et vous, on attrape un influenza, on filera pas bien pendant quelques jours, on va toucher, on va faire de la fièvre, on va être au lit, on va prendre une couple de journées de repos,
ouais. Mais
ça va passer. Mais la personne âgée qui a moins de capacité pulmonaire, particulièrement si la personne a fumé longtemps dans sa vie, ben un influenza, ça va faire souvent une grosse pneumonie.
C'est ça.
Et on va avoir besoin de les soutenir avec de l'oxygène à l'hôpital, parfois leur donner des antibiotiques aussi ou leur donner le Tamiflu. Puis c'est ça, donc ça occupe beaucoup les salles d'urgence et ça occupe beaucoup les lits d'hospitalisation également. Il y a un autre phénomène qu'on voit avec aussi le vieillissement de la population à ce temps-ci de l'année, c'est les chutes. C'est-à-dire chute sur le trottoir quand ça glisse un peu. Puis la personne âgée, au lieu d'avoir un bleu, une ecchymose, des fois, ça va être une fracture de hanche, ça va être une fracture de l'épaule. Puis, donc ça, c'est sûr que c'est des patients qui vont être en perte d'autonomie, qui vont prendre des lits hospitaliers et, ultimement, qui vont avoir besoin d'être relocalisés. Un des gros problèmes qu'on a, c'est le output, le flow,
okay,
pour renvoyer les patients. Parce qu'il nous manque de place en CHSLD ou en soins à domicile.
Fait que ces gens-là, dans le fond, vont attendre sur des civières en attendant qu'on les transfère, M. El Ayoubi?
Oui, le classique, et ça, c'est que ça reflue jusqu'à l'urgence. Parce que lorsqu'on regarde, si le patient est à l'étage, c'est-à-dire, le médecin de l'urgence a décidé de l'hospitaliser, puis il y a un médecin hospitaliste qui prend le patient en charge sur un étage hospitalier. Ça peut être l'étage 4, 5, 6, 7, ça dépend des hôpitaux.
Ouais.
Et la personne peut être hospitalisée en orthopédie si elle a une fracture, ou elle peut être hospitalisée en pneumologie si elle a une pneumonie, etc., etc. Et là, ces patients-là, il y en a que ils ne peuvent plus retourner à la maison. Puis ça, c'est un classique pendant le temps des fêtes. Parce que des fois, les enfants, ça fait un an qu'ils n'ont pas vu leurs parents. Après, ils arrivent pendant le temps des fêtes, ils se rendent compte que la maison est insalubre, les parents qui sont rendus à 88 ans chutent au sol, ne sont plus capables de s'occuper d'eux, ils les amènent à l'hôpital. Et là, on attend un lit de CHSLD ou de soins à domicile pour avoir de l'aide en soins à domicile ou RPA, peu importe. Il y a des lignes intermédiaires. S'il nous en manque, bien, ces patients-là restent à l'hôpital. Si ces patients-là restent à l'hôpital, pourquoi vous avez des fameux taux d'occupation de 175-200%?
Oui, on a ça à Laval aujourd'hui, là.
Ben oui, c'est parce que les patients ne montent pas à l'étage. Les patients restent à l'urgence.
En bas,
oui. Exactement. Donc là, il n'y a pas suffisamment de lits pour les mettre sur des civières standards. Donc, c'est là que vous voyez plein de civières dans les corridors. C'est ça le classique. Et si on avait plus de place en CHSLD ou de personnel pour du soin à domicile, ben ces patients-là, au lieu d'être dans le corridor, ils seraient à l'étage. Et le personnel infirmier et médical des urgences serait moins occupé à voir ces patients-là. Et on aurait des temps d'attente dans les urgences qui seraient moins élevés. Donc, il faut le voir, il y a un input à l'hôpital, l'entrée, et il y a un output, la sortie. Et à chaque étape, ça influence sur l'étape précédente. Donc, il faut vraiment agir en aval ici, avec les CHSLD de soins à domicile. Puis ça pourrait améliorer beaucoup la fluidité à l'hôpital.
Puis vous parliez d'influenza. Est-ce qu'on entend parler des cas de grippe un peu cette année? Parce qu'on sait que c'est arrivé un peu plus tôt, là, étant donné que l'hiver a débuté assez tôt dans le mois de décembre, fin novembre et tout ça. Est-ce qu'on entend parler aussi comme l'influenza ou un peu moins?
Ben, l'influenza, c'est une grippe. Ouais. C'est exactement, il y a l'influenza A, il y a l'influenza B. Donc oui, c'est vraiment ce qu'on a le plus à l'heure actuelle en termes d'hospitalisation.
Okay.
Moi, comme je disais tout à l'heure, à peu près 2 patients sur 3 que j'ai hospitalisés la semaine dernière avaient une influenza. Et ceux qu'on a besoin d'hospitaliser, des fois, parce que l'influenza, vous pouvez avoir juste une influenza, tousser un peu sans avoir de pneumonie. Mais il y a des patients qui vont développer une pneumonie assez sévère. Puis il y a même des patients qu'on est obligé de transférer aux soins intensifs, qu'on est obligé d'intuber parce qu'il faut les mettre sous ventilateur. C'est plus rare, mais ça arrive. Les soins intensifs sont plus occupés à l'heure actuelle en raison des patients qui ont besoin de ventilation mécanique, en raison des grippes.
Qu'est-ce qui pourrait être fait pour éviter ce psychodrame-là du temps des fêtes à chaque fois là, que on arrive à mi-décembre? Là, on voit les recommandations. Hein, si vous n'êtes pas malade, n'allez pas à l'urgence, là, ce qui est quand même... C'est capoté pareil, parce que les Québécois paient très cher leur système de soins de santé. Et on dirait que ce système-là, dans le temps des fêtes ou l'été, n'est pas capable de prendre la capacité ou la
c'est
la
chasse qu'à l'année, Pierre. Là.
Non, mais c'est ça,
mieux
pareil.
C'est les éviter tout court.
Tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, je, si tu veux pas m'offrir le service, moi, sur ma paye, là, t'en prends de l'argent là, qui va au système de soins de santé. Là. Je veux dire, si t'es pas capable, ben donne ça à quelqu'un d'autre, je sais pas. Là.
Oui, tout à fait. Bien sûr, il y a une question d'effectif. Tu sais, j'avais fait un petit peu de calcul, oui. Comment ça nous prendrait plus de médecins, particulièrement de médecins de première ligne. Parce que lorsqu'on parle des grippes, des influenzas, ces choses-là, c'est beaucoup l'accès à la première ligne. Là. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'accéder à la deuxième ligne, à part si le patient est aux soins intensifs pour ce genre de problème-là. Donc, c'est vraiment l'accès à la première ligne. Donc, avoir un nombre de médecins plus important, un nombre de super infirmières plus important aussi, avoir des ratios qui se comparent un peu plus aux pays de l'OCDE. Ça, je vous avais déjà fait des calculs. C'est sur notre site. Là,
on est en bas de ça, hein, dans nos les effectifs.
Ah oui, on est significativement en bas de ça. Au Québec, on a 2,8 médecins par 1000 habitants. L'OCDE est autour de 4 médecins par 1000 habitants, entre 3,8 et 4. Donc, on a quand même un facteur de grandeur qui est assez important. Quand on prend des pays très performants, comme par exemple la Suède, ils vont avoir 6,8. C'est pas raisonnable d'atteindre 6,8, mais si on pouvait être à 3,5 au lieu de 2,8, déjà, on aurait une différence sur l'effectif, sur l'efficacité.
Mais c'est-tu de la façon dont on gère la première ligne, dans la mesure où, pourquoi on met pas en ligne, justement, un service d'appel avec des médecins? La télémédecine existe maintenant, là. Et là, on débloque comme ça, on débloque des rendez-vous inutiles, parce que les gens doivent se présenter à l'urgence, puis bloquer des places, puis des civières, des affaires de même.
Tout à fait. Quelqu'un qui a une influenza pourrait tout à fait avoir une consultation en télémédecine, puis débloquer ça. Même débloquer ça à l'échelle pan-canadienne.
Ben oui.
Tant qu'à moi. Parce que quand vous regardez à l'Union européenne, là, vous pouvez être, puis histoire vécue, là, vous pouvez être en Autriche, avoir accès à de la télémédecine allemande. On vous envoie votre prescription électronique et vous allez voir le pharmacien en Autriche. Puis
il ça passe donne, pareil.
Il vous donne votre médicament.
Ben donc, c'est parce que le Canada paie très cher à chaque province hein, des montants là, pour la santé. Donc, ça pourrait être des gens de l'Ontario qui répondront au Québec. Là, je veux dire,
tout à fait.
En Ontario, c'est efficace.
Tout à fait. Et l'inverse. Parce que c'est sûr qu'une licence de pratique ontarienne versus québécoise versus la Colombie-Britannique, c'est des formations dignes des pays du G7. Là. Donc, il n'y a pas.
C'est ça, on n'est pas à Cuba non plus. Là.
Non, il n'y a pas de différence de qualité de formation. Donc ça, oui, la télémédecine, il faudrait l'utiliser de plus en plus. On a la technologie pour le faire. Ça peut être très intéressant aussi, la télémédecine, en matière de santé mentale. T'sais, de plus en plus, on a de plus en plus de problèmes d'anxiété, de santé mentale, particulièrement chez les jeunes. Ça peut être très intéressant parce que santé mentale, on n'est pas toujours obligé d'examiner physiquement la personne. Je ne suis pas obligé nécessairement de prendre votre tension artérielle ou de sculpter votre cœur ou vos poumons. Pour la santé mentale, ça peut être extrêmement intéressant, la télémédecine. On ne l'utilise pas suffisamment pour ouvrir plus les valves. Et le secteur privé fonctionne très bien de ce côté-là, côté télémédecine, pour ouvrir les valves au secteur privé. Il faut également donner la possibilité à l'ensemble des cliniques, des réseaux privés de contribuer. Tu sais, ça pourrait être tout à fait intéressant. C'est en période, disons, de pic d'influenza ou de virus respiratoire, de donner la possibilité aux gens de regarder, là, on est dans du 125%, dans du 150%, on est dans des heures d'attente qui sont déraisonnables. On pourrait tout à fait dire, pendant cette période-là, la carte d'assurance maladie va passer pour les diagnostics de virus respiratoires dans les cliniques privées.
Ben oui.
À partir de ce moment-là, on permet de désengorger le réseau public de cette façon-là. Puis on sait que le privé fonctionne avec des facteurs de performance plus élevés en raison moins de paperasse, moins de bureaucratie, etc. Donc, ce serait tout à fait une façon de compenser pour l'attente qui est très importante là, durant cette période de l'année, particulièrement pour les enfants. Puis on a beaucoup de pertes. Là, on va dire que ça va coûter plus cher, mais c'est parce que ce que les gens ne comprennent pas, des fois, c'est que lorsque, en perte de productivité, puis l'Institut Fraser l'avait calculé, là, combien on perd en perte de productivité parce que les gens attendent trop, que ce soit des chirurgies que vous attendez par exemple, à l'urgence, des parents, par exemple, qui vont attendre jusqu'à 1h du matin avec leur enfant. Bien, l'enfant, le lendemain, il ne va pas à l'école. Les parents, ça peut arriver que les parents ne soient pas capables d'aller travailler, ils sont trop fatigués. Ou si l'enfant est malade pendant la journée, puis ils ont attendu toute la journée, ils ont perdu des journées de travail, il y a une perte de productivité. Donc, avec l'ensemble des impôts qu'on paie, je pense qu'il y a tout à fait façon d'avoir un système qui est plus efficace et d'avoir des temps d'attente qui sont moins longs. Il faut juste être créatif et utiliser les bons acteurs au bon endroit.
Ça, moi, c'est tout ça, là, ça me semble logique. Mais je sais pas, il y a des politiciens, y a des gens qui sont en poste d'autorité, ils ne comprennent pas ça du tout.
En effet, c'est long à comprendre. C'est long, c'est laborieux. Il faut répéter souvent. Il y en a qui sont pas trop vite. Là. Mais à un moment donné, je me dis...
Ce serait le fun qu'un coup rendu là, ils comprennent assez rapidement. Là. On n'a pas de temps à perdre. Là.
C'est vraiment quelque chose. Je veux dire, le secteur privé peut nous aider, mais d'avoir une vision comme ça, justement, là, en quelques moves et des décisions qui font en sorte qu'on pourrait améliorer... l'accessibilité au réseau rapidement. Vous avez parlé de santé mentale, on va terminer avec ça. Est-ce qu'on en voit arriver de plus en plus des cas de santé mentale dans les urgences et qui viennent bloquer justement, qui viennent congestionner le réseau?
Oui, exactement. Puis c'est un peu triste parce que le pire, parce que moi, je fais les deux, c'est-à-dire, je veux dire, de la médecine d'urgence et de la médecine de bureau. Je voudrais et de l'hospitalisation aussi. Le pire endroit pour voir un patient de santé mentale, tant qu'à moi, c'est l'urgence. Okay? Bon, à part si c'est une loi P38, parce que le patient était soit dangereux pour lui-même, soit pour un autre.
Ouais.
On s'entend, il faut le mettre temporairement hors d'état de nuit pour qu'il soit vu après en psychiatrie, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui souffre d'un épisode dépressif majeur, d'aller, premièrement, le travail que le médecin d'urgence va faire, sans dire que c'est inadéquat, le médecin de l'urgence, la plupart du temps, n'a pas nécessairement de formation en santé mentale. C'est beaucoup plus de la médecine physique. Et le fait que ça va rapidement à l'urgence, on fonctionne un peu en système binaire 0-1. Là. C'est-à-dire, toutes les nuances, les teintes de gris qui sont nécessaires pour la santé mentale, le médecin de l'urgence n'a pas le temps de faire ça parce que sinon, ça va jammer complètement son urgence. Il y a de la réanimation. Donc, il faudrait absolument que ces patients-là puissent être pris en charge en dehors de l'urgence. De un, il n'engorgerait pas les urgences. Et de deux, ces patients-là seraient beaucoup mieux pris en charge. Pas parce qu'il n'est pas bon, le médecin de l'urgence, mais parce que Le gros de sa job, c'est pas de faire, c'est pas de faire de la santé mentale. C'est beaucoup plus le travail au bureau, en GMR, par exemple, on en fait beaucoup, en psychiatrie, en deuxième ligne, quand c'est nécessaire. Et maintenant, il y a de plus en plus une chose qu'il faudrait faire, c'est former de plus en plus aussi d'infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale pour aider les psychiatres. Parce que, t'as pas nécessairement toujours besoin de voir un psychiatre. Tu pourrais voir une IPS en santé mentale qui est formée en santé mentale. Et elle, ben, t'envoie voir le psychiatre uniquement si, à sens que ses compétences sont dépassées. Donc, ça, ce serait une façon
De créer peut-être un centre spécialisé en santé mentale par ville, par district, par secteur, là, tu sais, puis des envoyer là au lieu des envoyer à l'urgence en panique, là.
Absolument, ça serait très intéressant parce que c'est bien connu lorsque vous êtes dans un endroit où vous faites pas mal toujours la même chose. Vous devenez avec des réflexes de productivité beaucoup plus importants que si vous switchez, par exemple, d'un cas de cardio à un cas de santé mentale, à un cas d'urologie. Là, à un moment donné, si vous ne développez pas les réflexes, la machine ne développe pas les réflexes les plus productifs et les plus efficaces. Donc oui, la santé mentale, c'est un pan de la santé globale qui nécessite une expertise qui est assez différente de celle de la santé physique. Donc oui, ce serait une initiative qui serait intéressante.
Donc on va souhaiter beaucoup de santé en 2026. Docteur Karim El Ayoubi, merci beaucoup de vos lumières et au plaisir de s'en parler prochainement.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. Bye. Tu vois? Tu sais, regarde, c'est pas compliqué, là. La télémédecine, là, tu désengorges ton urgence, puis ta santé mentale. Tu fais des centres spécialisés en santé mentale où là, tu as une équipe qui prend en charge.
C'est ça, ils sont taxés là-dessus. Et là, non, autres, tu fais un tri à l'urgence.
Là, on prend tout le monde à l'urgence. Un gros buffet all-in. Puis
là, c'est bien souvent, on va te donner un rendez-vous, repasse demain. Avec là, il vient passer 8 heures pour comme pas grand-chose des fois. Mais le nombre de fois que c'est arrivé aussi, que tu t'en vas à l'urgence. Puis, ben, tu sais, mets-toi de la glace, puis retourne chez vous.
Là, tu vois, regarde, c'est 5h22 le temps moyen, une urgence au Québec. Puis là, ça dépend des régions.
Nord, il y a des secteurs que ça passe le 200% là, certains hôpitaux. Là. Puis pour la télémédecine, il y a un auditeur qui nous écrit, je connais des gens avec qui ça va relativement bien. Mais lui, il dit, pour le moment, les services de télémédecine, lui, il dit comme TELUS, il y a beaucoup de filtrage à faire. Fait que ça devient difficile de parler à un médecin, tout simplement. Là-dessus.
Non, mais je comprends, mais le Santé Québec là, met en place un réseau de télémédecine pour les Québécois, pas des histoires d'assurance collective. Là.
Ben non.
Là, regarde, on passe à une autre chose. On passe à un autre niveau. Là, mm-hmm. Là tu as peut-être 30 médecins de garde. Tu dégages des ressources pour la télémédecine pour désengorger le reste du réseau?
C'est un peu ça la base de Santé Québec.
Ben, je sais pas.
Ils ont engagé
là.
Des centaines de cadres de plus. Il y a à peu près un mois, c'est annoncé, cette histoire-là. Là. Fait qu'aussi bien que ça serve à quelque chose.
Imagines-tu? Je sais pas, gars. Ils veulent pas. Je pense qu'ils veulent pas.
Mais pourquoi? Tu désengorges le système. On revient tout le temps à la même affaire. Ben, à chaque début d'année, ce serait le fun qu'à un moment donné, on mette le doigt sur le bobo.
Ben, c'est une histoire de cash. Ils veulent ton cash. Ils veulent ton cash à chaque année. Ils veulent augmenter la part de l'impôt que tu vas pour la santé. Puis t'aides l'argent au fédéral.
Faites faire par exprès pour que notre système descende tout le temps. Ça aille de moins en moins bien.
En Europe, t'as des centres de télémédecine de l'Autriche ou d'Allemagne qui répondent à d'autres pays. À un moment donné, là...
Mais c'est drôle parce que de région, de province à province, comme si à eux autres, hein, ouais, c'est ça, doctrine ouais, qui vient un peu de Cuba dans le même site. C'est la même affaire, Pierre. On pourrait parler de la LCBO et de la SAQ, ces affaires-là. Là, ils ouvrent les valves là-dessus un peu plus, mais en santé, on désengorgerait le système.
Mais ça serait pas compliqué.
Parce que pendant que ça va moins bien dans d'autres provinces, bon, on peut aller aider le Québec, exemple.
Ben genre, écoute, en Ontario, il y a des francophones, là. Puis au Nouveau-Brunswick, il y a des francophones. Mais ça, ils veulent pas travailler. Écoute, c'est toutes des chasses gardées. Hein, on l'a vu, là, les champs de compétences, puis les espèces de restrictions sur le commerce, les barrières interprovinciales. Le Québec, c'est le champion. Il y en a une trentaine. On n'a rien fait là-dessus. On est ouvert là-dessus.
Avec les tarifs, on disait donc hein, que ça allait changer cette histoire-là.
Incroyable. Il n'y a rien qui change.
C'est niaiseux, maudit.
Voilà. Hey, après la pause, on ouvre les lignes.
Bon, que oui.
Je pense que toi, tu me dis bonne année 2026.
On souhaite quoi, là, pour 2026?
Qu'est-ce que vous souhaitez, personnellement, on va faire les objectifs. Si vous avez, je sais pas, il y en a, c'est se remettre en forme. Il y en a, c'est peut-être de travailler sur ton mental. Uh-huh. Peut-être d'aller prendre des marches.
Faire plus d'argent.
Il y en a d'autres, c'est quoi? C'est de retourner aux études. Ouais. Tu sais, il y a plein de...
Parce qu'il y a des affaires, ça fait longtemps qu'on se fixe puis on le fait pas. Là. Ouais. Fait que des fois, c'est le hashtag New Year, New Me. Fait que là, tu peux repartir à neuf.
Du temps. Hein, beaucoup de gens aussi ont du temps, de la santé. Il y en a qui ont des problèmes de santé. Peut-être se replacer tranquillement.
Absolument.
Puis, repartir en neuf, comme on dit.
Uh-huh.
Fait que, regarde, on va faire le tour.
Parfait.
On va commencer. Toi, tu vas nous dire c'est quoi tu t'attends en 2026.
Ah,
moi, je vais dire à quoi je m'attends en 2026. Puis les auditeurs, on va faire le tour. On revient après la pause.
Couture. Restez là. On revient dans un instant.
Dans le mid, Radio X.